Catherine, bonjour.
Bonjour.
Catherine Flamand, vous êtes au comptoir d'édition. Alors, vous êtes au comptoir d'édition, c'est un petit peu flou comme expression. Vous êtes à l'origine du comptoir d'édition, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce que le comptoir d'édition?
Donc, le comptoir d'édition est une association qui édite des livres, qui a été créée en 2010 par moi et Laurence Locatelli, qui aujourd'hui travaille sur Lyon, donc elle est beaucoup moins présente. Donc c'est une association qui s'est créée dans un contexte un peu particulier, puisqu'en 2009, on avait monté une grosse opération qu'on a appelée le Tétralire, qui, avec un libraire ambulant, Xavier, qui vendait ses livres sur les marchés du Vercors. Et donc, on avait le projet de faire venir des écrivains américains qui écrivent sur la nature sauvage. Et on a donc fait deux choses à ce moment-là. On a fabriqué des boîtes. On a fabriqué une quarantaine de boîtes. En fait, c'est des menuisiers, Michel Krekelberg et Jean-François Guillaume, qui ont fabriqué une quarantaine de boîtes dans du joli bois, quoi. Et dans lesquelles on a mis 200 livres. La région nous avait aidés, nous a payé les livres. On a acheté 200 livres, qui étaient 200 livres de la nature sauvage américaine.
200 livres dans combien de boîtes?
Dans 40 boîtes. Donc en tout, hein. C'est-à-dire qu'il y avait, 5 ou 6 livres par boîte, quoi. Et on a mis ces 40 boîtes dans tous les villages du Vercors. C'est-à-dire dans le Royandreau, Isère, La Chapelle en Vercors et Villars, Autran, enfin, disons, le plateau sud, le plateau nord et le Grand Royan. Et on a mis dans les villages, on avait mis à la poste, chez le kiné, chez Nathalie, ici à Saint-Jean-Royan. Enfin, on a fait l'opération avec les bibliothèques, puisque les bibliothèques ont protégé les livres en les couvrant. Voilà, et on a laissé les boîtes. On les a laissés vivre, on les a posés, on avait mis une fiche où les gens marquaient leur nom, leur téléphone quand ils empruntaient un livre. Mais on n'a jamais rien vérifié et on a laissé les boîtes pendant un an.
L'objectif était de les emprunter, donc de les remettre. Ce n'était pas un échange, on en remet un autre, ou on n'en remet pas, on le prend. C'était un prêt.
Oui, c'était un prêt, voilà. C'était des livres qui étaient étiquetés Tétralire. Dans notre idée, c'était pour préparer un festival où on aurait invité tous ces auteurs américains. Mais bon, finalement, ça s'avérait beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait. On a invité un seul écrivain américain. Voilà. Donc, et les gens on a laissé ces boîtes vivre sans, on expliquait un peu ce dont il s'agissait, mais je crois que personne n'y comprenait rien. Les gens ont regardé ça d'un drôle d'air. Puis après, ils ont vu que les livres étaient toujours là. Les livres leur ont plu. Et plein de gens sont mis à les emprunter. Les livres se sont mis à tourner. Et moi, j'en ai entendu parler dans plein d'endroits, quoi. Le garçon qui tenait la gare, par exemple, à Saint-Hilaire, un jour se met à me parler de ses livres. Il habite le Vercors, il les empruntait, bon.
Et le lien avec Xavier, le libraire, lequel était-il précisément?
Alors Xavier était un spécialiste de ces questions, c'était un passionné de cette littérature-là, donc c'est lui qui connaissait, qui avait choisi les livres, quoi. Donc aujourd'hui, il y a un éditeur qui s'appelle Galmester, il y a des librairies qui défendent cet éditeur, donc à Villars, la très très bonne librairie Le Temps Retrouvé, et puis à Romans, La Manufacture. Donc aujourd'hui, c'est une littérature qui est très connue, mais à l'époque, elle n'était pas encore très connue.
D'accord. Et donc, ça a mis du temps pour que ça prenne, pour que les gens s'approprient ces boîtes à livres. Et vous avez eu quelques retours. Alors, on parlait de la personne de la gare. Quels autres types de liens, de retours, de commentaires vous avez pu avoir de certains lecteurs ou lectrices?
Ben, les gens, je pense qu'ils ont été assez méfiants au début parce que ils savaient pas ce que c'était, quoi. Et puis après, comme ils ont vu que personne leur disait rien, quoi, qu'ils prennent le livre ou pas, enfin que personne disait rien, je veux dire, on n'a jamais téléphoné à personne, on s'en est plus occupé, quoi. On avait lancé le truc et puis on avait autre chose à faire, nous. Donc on l'a laissé vivre, quoi. Et je pense que ça a été très bien, en fait, que ça soit si peu institutionnel et que ça soit si libre, parce que d'abord presque, je pense que quasiment aucun livre n'a disparu. On les a quasiment tous récupérés. Quand on a arrêté, quoi, au bout d'un an. ils ont été donnés aux bibliothèques, ils sont donc toujours disponibles dans les bibliothèques. Et puis les gens se sont sentis très libres. Et alors et même les bibliothèques nous disaient, c'est quand même bizarre parce qu'en bibliothèque on n'est pas si contraint que ça, quoi. On emprunte un livre, on le ramène. Mais là c'était, personne savait, je sais pas pourquoi c'était. Il y avait quelque chose de plus libre. C'était à la poste, c'était à l'épicerie, c'était
dans
on prenait un livre.
Aussi,
voilà.
Ouais.
Oui. Et je sais pas. Il y avait un rapport plus libre à la lecture. Puis c'était des livres sur la liberté des grands espaces et de la nature sauvage.
Donc là, on est en 2009 jusqu'à 2010, alors, quelque chose
voilà,
comme ça.
Voilà, et en parallèle à ça, on a fait venir un écrivain marseillais, Jean-Pierre Ostende, qui lui est un écrivain littéraire, hein, qui est publié par Gallimard, et qui est un écrivain qui travaille beaucoup, qui est un écrivain qui n'est que écrivain, qui n'est pas prof à côté, tout ça. Il a fait le choix très jeune de se consacrer à la littérature. Et donc, il travaille beaucoup avec des systèmes de résidence. Et il est assez passionné par le travail des gens. Et donc, dans un journal, il a fait des résidences, par exemple, sur la mafia en Sicile, comment fonctionne l'argent. Il a fait une autre résidence à Toulon, sur comment fonctionne une mairie. Je veux dire, voilà, c'est comment fonctionnent les choses. Et donc, il avait dit dans un interview qu'il aimerait rencontrer des agriculteurs. Donc, nous, on s'est dit, dans le Vercors, on a des agriculteurs. On est allé le voir. On a organisé ça avec la PAP, l'association des paysans, de l'agriculture du Vercors, du parc. Et on est allé le chercher. On a trouvé l'argent auprès de la région et de l'État. Et on l'a fait venir. Il est venu 6 semaines pendant 1 an. Et à chaque fois, dans 6 secteurs du parc, quoi, y compris le Trièves et le Diois, le parc du Vercors, donc le Royan, les deux plateaux nord et sud et le Trièves et le Diois. Et on lui faisait rencontrer des agriculteurs. C'est-à-dire on l'emmenait, il passait, les agriculteurs nous disaient « Oh là là, un écrivain !» Bon, 1 heure, d'accord. Et puis on revenait au bout de 2 heures, il voulait plus le lâcher. Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose, quoi, de rencontre entre la culture et l'agriculture. Mais qui est resté entre eux. Nous, on n'a jamais su. Enfin, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Mais lui, du coup, il avait quand même, Jean-Pierre Ostende, une grande connaissance du territoire, des problèmes des agriculteurs, etc. Il était fasciné par Max le robot. Il y avait des projets de faire venir Max le robot pour traire les vaches dans le Vercors.
Qui est Max le robot?
Ben, c'est un robot où les vaches vont se faire traire toutes seules. C'est-à-dire, là, dans la plupart des fermes, on rentre les vaches, on leur met sur les piles, les machines. Alors que là, c'est une machine, je pense qu'elle est installée. Il y a quelqu'un qui l'a dans le Royan, il doit y en avoir aussi là-haut. C'est un robot où les vaches vont se faire traire toutes seules. Donc, il y a des questions. Est-ce qu'une vache peut tomber amoureuse de Max le robot? Est-ce qu'elle peut aller se faire traire un peu trop? À ce moment-là, on la voit paître.
Là, vous citez des retours qui ont été publiés dans l'ouvrage.
Donc ensuite, il se trouve que c'était les 40 ans du Parc du Vercors. Donc, le Parc du Vercors n'avait pas du tout financé toute cette opération. C'était nous qui nous étions occupés de ça. Et donc, du coup, c'était les 40 ans du Parc. On a dit au Parc, ça serait bien quand même. Vous avez un écrivain qui connaît vraiment bien votre territoire et vos agriculteurs. Ce serait bien de lui passer commande d'un texte que le Parc a fait pour ses 40 ans. Ce qui a donné ce livre Super Parc Super Naturel, qui est un livre extrêmement ironique, évidemment, puisque c'est l'histoire de Barbera, qui est metteur en scène de paysage international, qui vient donc mettre en scène le paysage du Vercors. Et Barbera décide de faire un danse-flour. C'est-à-dire qu'il installe une grande piste de danse et quand les gens dansent, ça allume plein de lumières partout, des escalators qui montent dans la montagne. Là, la montagne se met à clignoter. Enfin bon, c'est un peu délirant. Et évidemment, les agriculteurs sont contre le projet de Barbera, de danse flour. Il va y avoir un lac avec une gigantesque vague, etc. Donc c'est toute la lutte des agriculteurs contre le projet de montagne clignotante avec des escalators, ce qui serait quand même pourtant bien pratique. Et voilà, donc c'est très drôle. On sent qu'il a vraiment rencontré des agriculteurs, mais en même temps, c'est un écrivain, c'est une fiction, quoi. Il invente une histoire qui est complètement délirante avec tout ça. Mais il parle des ravioles, il parle des hôtels en hiver dans le Vercors, il parle des routes enneigées terrifiantes.
Donc beaucoup d'ironie. Et puis hors micro, vous me disiez aussi, déjà ça se reflète sur la couverture, hein, la couleur rose fluo.
Oui, voilà.
Quand même.
Voilà. Alors c'est donc dans le livre, il y a le texte et puis il y a des extraits des carnets de Jean-Pierre Ostende. Donc il y a par exemple un plan du Vercors qui est fait sur le squelette d'un mammouth, enfin non, d'un mastodonte, d'un animal préhistorique, et chaque os porte un nom de village, quoi. Voilà, c'est ce genre d'ironie quand même. Et le livre a été imprimé en rose fluo, c'est-à-dire la couverture est rose fluo, donc c'est évidemment décalé par rapport à l'image du Vercors qui est celle de sportif, d'une nature où le vert domine. On a pris complètement le contre-pied, mais je pense que c'est notre rôle que c'est le rôle de la littérature et de la fiction, c'est-à-dire de prendre la distance, quoi, d'avoir de l'humour, de pas être béni oui dans la norme de la communication, quoi, sinon.
Et au tout début, quand on a commencé à évoquer Jean-Pierre Ostende, vous avez précisé qu'il était écrivain littéraire. Pourquoi vous avez précisé littéraire ?
Parce que, je veux dire, c'est de la littérature, hein. Il est publié par Gallimard. Donc Gallimard, il fait partie du fond Gallimard, quoi, de littérature un peu expérimentale, un peu contemporaine. C'est-à-dire que la littérature, c'est un travail aussi sur la langue. C'est-à-dire comment on emploie la langue autrement. Et chez Jean-Pierre Ostende, il y a vraiment un travail sur la grammaire en plus, sur comment la syntaxe peut décaler la manière de penser. C'est-à-dire qu'on pense avec la langue contraint notre manière de penser. Par exemple, quand on dit la rivière coule, ben, c'est comme s'il y avait une seule eau et qu'elle coulait, alors qu'il y a plein d'eaux différentes, il y a plein de filets d'eau dans une rivière, que c'est jamais la même eau, la rivière, c'est pas un seul, c'est jamais une même eau. Enfin, voilà, je veux dire, la langue construit la pensée du monde et la représentation du monde. Et donc, le rôle des écrivains, c'est aussi de déplacer la langue pour avoir autrement le monde, pour avoir d'autres visions. Voilà, je veux dire, c'est pas simplement le fait de raconter une histoire. Il y a des gens qui racontent une histoire, et ça, c'est bien, ça nous distrait, on en a besoin. Et puis, il y a une langue qui permet de penser aussi, quoi, autrement.
Est-ce que c'est avec Jean-Pierre Ostende et Super Parc Supernaturel que... Ben, le comptoir d'édition
s'est créé
oui, et oui. Du coup, c'était le premier ouvrage édité.
C'est pas tout à fait le premier ouvrage. Il y a eu en même temps un autre ouvrage sur le Royan Vercors en été, sur l'eau dans le Royan aquatique, quoi. Parce que l'eau dans le Royan est quelque chose d'assez secret. Paradoxalement, elle est omniprésente. On voit bien quand on arrive, on passe une porte à Saint-Nazaire et tout d'un coup, tout est vert. On rentre dans un aquarium. Et d'où vient toute cette eau, quoi? Il y a l'eau de la pluie, mais il y a aussi les résurgences, et il y a aussi le fait que le Royan est le golfe du Vercors. Enfin, il y a toutes les eaux du Vercors qui arrivent là. Mais c'est assez compliqué, en fait, à comprendre, en particulier, je pense, pour des touristes. Donc, on a fait un tout petit livre qui a été fait avec les gens. Par exemple, il y a un article de Marie-France Fort sur le lac de Bouvante et le barrage de Bouvante. Il y a un article d'Hélène Luczesine qui est hydrologue, qui est donc un article sur l'eau. Voilà, il y a une vision, par exemple, sur Saint-Jean-Royan. On présente Saint-Jean comme une ville de jardin et d'eau, ce qui est une réalité de Saint-Jean. Il y a de l'eau partout, sous toutes les maisons, sauf qu'on la voit pas, on la voit uniquement dans la fontaine aux cygnes quand elle marche. Je crois qu'elle marche pas en ce moment. Et alors qu'il y a plein d'eau partout et qu'on pourrait faire tout un circuit d'eau dans le village, et il y a des jardins partout, mais qui sont assez secrets aussi. Et donc, on a imaginé Saint-Jean en ville d'eau et de jardin, quoi, un genre d'Aix-en-Provence à Saint-Jean-Royan. Bon, ce qui serait un autre rapport à l'eau. C'est-à-dire, je pense que dans le Royan, l'eau a tellement été quelque chose d'utile, qu'a tellement fait marcher toutes les usines de bois, les usines textiles, des moulins en tout genre, que on l'eau, c'est une force. Mmh. C'est l'hydroélectricité, c'est tout ça. Et on a beaucoup de mal à voir l'eau comme du loisir, comme de la pure, comme du pur plaisir, quoi. Mmh. Ça fait pas partie de la culture qu'on a de l'eau ici. Donc voilà, l'un des objectifs, c'était de dire, mais au fond, avec l'eau, on pourrait faire quelque chose de très touristique, quoi. Il y en a partout, puisque Saint-Jean s'est créé auprès de Fontépesse. Saint-Jean n'a pas été créé au bord de la Lyonne. Saint-Jean s'est créé au bord de la source de Fontépesse. Et donc qui est une source qui était réputée miraculeuse et qui est surtout une source très très importante, quoi, donc il y a beaucoup d'eau. Et les gens qui ont des maisons le savent, quoi, ils sont envahis d'eau tout le temps.
Royan-Vercors était, donc c'est une coécriture, ce sont plusieurs auteurs, plusieurs articles.
C'est même un livre participatif, c'est-à-dire on l'a construit comme ça, il y a un article aussi de Jean-Paul Giron sur les animaux, mais on l'a pensé, on l'a discuté avec beaucoup d'acteurs pour le penser, quoi. C'était une manière de penser qu'est-ce que c'est que la ressource en eau aujourd'hui dans le royaume, quoi. Et à plusieurs.
Donc le comptoir d'édition, c'est un travail en équipe, si je comprends bien.
Voilà. L'idée, c'est ça, c'est d'être... moi, je dis que c'est une maison d'édition rurale contemporaine, ce qui veut dire deux choses. D'une part que c'est une maison d'édition liée à son territoire et que ce territoire est rural, quoi. Et que donc on travaille avec le territoire, on travaille pas tout seul. Et en même temps, contemporaine, c'est l'idée qu'il y a aujourd'hui de la liberté et de la modernité dans le territoire rural, quoi. Il y a pas que l'air des villes qui rend libre, hein. C'est ce qu'on disait au XXe siècle, on disait l'air des villes rend libre. Aujourd'hui, l'air des villes est un peu pollué. Et comment faire pour que l'air de la campagne nous rende libre? C'est un peu ça. Et donc, la liberté et la modernité, quoi.
Donc ça, c'est quelque chose que vous portez au sein de l'équipe. Alors maintenant, donc Laurence, c'est un petit peu quand même détaché du projet, oui. Vous le disiez tout à l'heure. Mais c'est un travail donc avec différents auteurs. C'est un travail avec aussi différents graphistes.
Voilà. Alors ça, c'est l'aspect contemporain. C'est que un livre, c'est pas seulement de la lecture, c'est aussi du papier. Donc un choix de papier, c'est plus ou moins lourd. Ça a un format ou un autre. On l'ouvre, on peut enlever la couverture. On peut faire beaucoup de choses avec un livre. Donc c'est travailler ça, quoi. À la fois le visuel, mais aussi le poids, la matière, le toucher, tout ça. Donc, et ça, c'est les graphistes.
Alors là, une question que je me pose, que peut-être nos auditeurs, auditrices se posent. Mais toutes ces personnes, sont-elles rémunérées? Est-ce que vous travaillez bénévolement? Quel est le nerf de la guerre? Comment on fait pour éditer des ouvrages? Tout ça, c'est un coût quand même.
Alors, à la fois, ça coûte cher et pas cher. C'est-à-dire qu'un livre, ça coûte... ça coûte pas très cher, l'imprimerie c'est pas très cher, un graphiste c'est 2-3 000 euros un graphiste, ça dépend des livres, mais moi je fais c'est des livres pas très chers, hein, que je fais. Donc on calcule un seuil d'amortissement. En général, moi, c'est autour de 300, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai vendu 300 livres, le livre est payé. Moi, je suis pas payée, mais j'ai payé mes fournisseurs. C'est-à-dire, j'ai payé le graphiste et l'imprimeur. Après, on paye les droits d'auteur au pourcentage du nombre de livres vendus. Et donc, souvent, on construit un budget quand même en demandant des aides financières. Donc, en région Rhône-Alpes, il y a un centre régional du livre qui s'appelle l'Aralde. Et puis il y a par exemple les livres d'histoire, il y a des modes de financement particuliers pour le livre Vercors des Mille Chemins sur donc voilà. Et il y a j'ai dit que pour Jean-Pierre Ostende, c'était le parc qui a payé l'auteur et l'impression du livre. Donc à chaque fois il y a des systèmes différents, mais c'est vrai que pour faire des livres, moi je veux que les livres soient pas chers. Donc par exemple le Vercors n'est pas une carte postale, qui est un livre avec un DVD avec 4 films, hein, qui a été fait avec des cinéastes du Vercors, qui est un livre en couleur, qui a été fait par une graphiste, qui est un très très joli livre, et ben il est vendu 14 euros, ce qui est dérisoire. Mais parce que il y a eu des subventions, quoi. Là c'est l'Europe qui l'a financé. Donc du coup, il n'y a pas de raison, quoi. On calcule vraiment juste le prix pour... Et puis après, une maison d'édition, donc là maintenant, ça fait 6 ans que la maison est créée. Donc j'ai du fonds qui se vend. C'est-à-dire que tous mes livres sont amortis, donc j'ai passé le seuil de... Et du coup, j'ai, je sais pas, j'ai 2000 euros, c'est pas énorme, mais j'ai 2000 euros par an qui rentrent du fond, de la vente du fond quand même. Donc ça permet de financer les livres suivants, quoi.
Est-ce que le fait que vous soyez une association comme structure juridique aide, notamment peut-être pour les aides région,
non,
État?
Non, ça n'a rien à voir, non.
D'accord.
Non, ça n'a rien à voir. C'est le, association, c'est parce que ça correspond à la réalité, quoi. On fait un travail de territoire, d'équipe, associatif.
Oui. Là, vous nous avez évoqué déjà quatre livres, par exemple, tous des livres autour du royaume Vercors. Est-ce que c'est votre cheval de bataille?
Alors, c'est une maison d'édition rurale, donc liée au territoire. Donc, c'est vrai qu'il y a pour une part une vraie passion pour le territoire du parc du Vercors, hein. C'est pour moi, c'est pas que le Royan, c'est vraiment l'ensemble du parc du Vercors, et qui a eu, disons, que une vraie passion pour explorer ça, donc dans le cinéma, dans l'histoire, dans la littérature, la question des ressources, l'eau par exemple, voilà. Donc il y a plusieurs dimensions. Après, moi, je fais pas que ça non plus. C'est-à-dire, j'aime beaucoup la littérature et la poésie, donc il y a aussi d'autres livres. Voilà.
Ça marche au coup de cœur, j'imagine.
Ben oui.
Ça ne peut pas fonctionner autrement. Ouais. Mais quel est votre rapport aux auteurs du territoire?
Alors, les auteurs du territoire, c'est donc jusqu'à présent, c'est moi ou nous qui avons, qui demandons à des auteurs de, ou alors par exemple Vercors des Mille Chemins, qui est figure de l'étranger en temps de guerre, qui est un livre fait avec le CPIE, avec Philippe Anus. Là, c'est Philippe qui a été le directeur du livre avec l'hortelière, donc une autre universitaire. Il y a 30 auteurs, dont des gens, des témoins, par exemple, sur la retirada, sur l'arrivée des Espagnols à avant-guerre. Il y a une dame de Saint-Laurent. Ça a été fait, la bibliothèque de Saint-Jean avait fait un gros travail là-dessus, et donc elle a plus ou moins participé au livre. Donc c'est un travail aussi avec... Donc il y a des historiens confirmés, il y a des très jeunes historiens, des doctorants, des jeunes gens qui font leur thèse, et il y a des historiens amateurs, et il y a des témoins. Des gens qui racontent ce qu'ils ont vu, quoi. Et il y a même des artistes. Frédérica Smetana, elle est comédienne et elle est directrice d'une troupe de théâtre. Donc c'est... et on a tout mélangé. Et le livre est présenté par un des pontes de l'histoire, de ces questions-là, qui est un très grand universitaire très reconnu. Donc ça c'est vraiment un livre de territoire pour moi, c'est-à-dire c'est fait avec plein de gens avec des statuts différents, et on déplace on n'a pas mis les historiens sérieux, scientifiques, etc. au début, et puis les artistes et les témoins à la fin, hein, on les, ouais, a tous mélangés. Et moi j'ai fait une typographie du livre comme celle d'un roman, c'est-à-dire que c'est des horreurs, hein, les historiens. Ils vous font des articles avec des milliers de notes et avec des milliers de chiffres et avec des milliers d'acronymes, c'est-à-dire d'énormes lettres, on ne sait pas ce que ça veut dire, etc. Et donc, tous les chiffres sont en chiffres minuscules, c'est-à-dire que du coup, c'est des chiffres qui ne sont pas comme les chiffres de la comptabilité, tous à la même hauteur, etc. Donc, ils disparaissent dans le texte. Il y a certains chiffres qui vont sous la ligne, d'autres au-dessus. Enfin, et donc, du coup, ils sont écrits comme des minuscules, quoi. Et donc, du coup, on les voit pas. Ils font pas un gros bloc qui surgit dans le texte. Et les acronymes, pareil, ils sont faits en ce qu'on appelle des petites capitales, des small caps, qui ont la hauteur qui ont une hauteur en rapport avec la minuscule aussi, qui fait que ça fait pas un gros paquet, un gros bloc au milieu du texte. Et du coup, on a des textes qui sont des textes scientifiques, mais qui sont dans le visuel, dans le gris typographique, dans la manière dont on voit le texte quand on ouvre la page, qui ressemble à du roman. Parce que ça, on voit plus tous ces gros paquets là. Et les notes, je les ai mises en, comme des notes de musique, quoi. Je les ai rendues très, très légères à la fin, dans des petites colonnes, avec des petits appels de notes, qui s'envolent comme des notes de musique. Et du coup, eh ben, ça a fonctionné. C'est-à-dire que les gens ont vraiment lu ces textes comme du roman. Et ça, c'est passionnant de voir que la typographie, la manière dont on présente un texte, compte énormément dans nos habitudes de lecture. Et là, c'était présenté comme du roman. Et les gens ont lu le livre comme du roman, quoi. Alors que c'était des choses très sérieuses.
Vercors des mille chemins, figure de l'étranger en temps de guerre. Donc là, ça nous permet de voir, vous l'avez dit aussi, que c'est vous qui allez aussi à la rencontre des auteurs. Est-ce que ça va dans l'autre sens, des auteurs régionaux vous sollicitent?
Alors, ça arrive, bien sûr. Et donc là, à chaque fois, c'est une discussion. Moi, ce que je préfère faire, c'est parce qu'il y a une identité dans une maison d'édition. Donc les livres que je fais, ils sont financés. Il y a des graphistes qui travaillent dessus. Quand on publie un auteur local, on va pas forcément avoir la vente ni le même genre d'aide non plus. Donc du coup, on a moins d'argent. Donc du coup, ce que je préfère faire, c'est de faire une aide à l'auto-édition. Mais ça peut être... Donc là, je vais prendre l'exemple de ce qu'on a fait avec l'école de Saint-Agnan, un petit livre que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle « Résistant à 10 ans », qui est un livre qui a été écrit par les enfants, donc de CM1, CM2, pendant 3 ans, avec leurs instituteurs, Yves Baudrier et Christine Baudrier. Et quand le livre a été fini, quoi, moi je l'ai lu. Donc c'est un livre qui est écrit avec des mots très simples, mais j'ai été extrêmement surprise de voir à quel point il tenait sur le plan suspense, sur le plan narratif, construction narrative, c'est-à-dire que on le lit, quoi. Je l'ai lu à 2 ou 3 fois, je crois. À chaque fois, on commence à lire et on le lit jusqu'au bout. Donc il y a vraiment quelque chose qui tient. Et donc du coup, j'ai dit ok, on y va. Et donc on a fait le livre avec tous les enfants, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés à la bibliothèque de la chapelle, on a pris des livres pour enfants, enfin des livres dans la bibliothèque, et on a regardé le format du livre, qu'est-ce qui vous tient bien dans la main, quel format vous voulez, la taille des caractères, moi je sais pas qu'est-ce que lit un gosse, quoi. Donc du coup c'est eux qui m'ont dit, ben là on arrive bien à lire, là on n'arrive pas. Donc du coup c'est écrit en assez gros caractères, c'est une police assez avec les traits dessous bien marqués, assez ronde. Je l'ai choisi avec eux, quoi, en gros. Le format aussi. On a regardé les couvertures et puis là je me suis aperçue que on a quelque chose en... Un livre, la couverture est en carte, c'est-à-dire c'est une carte de 300 grammes en général. Dessus, elle est imprimée en offset. On met ce qu'on appelle un pelliculage, donc pour protéger des traces de doigts, puis pour renforcer aussi. Donc moi, je mets en général des pelliculages mat. Et par-dessus le pelliculage mat, là, on a mis ce qu'on appelle un vernis sélectif. C'est-à-dire qu'il y a un vernis qui fait une petite surépaisseur, mais seulement sur certains objets de la couverture. Là, les voitures et les soldats. Et du coup, et les gosses, je me suis aperçue que les gosses, ils voient le vernis sélectif, ils voient en relief. Donc pour eux, la voiture ou l'avion, elle part. Donc du coup, la voiture qui était sur la couverture, je l'ai mis derrière, qui s'en allait, quoi. Et puis j'ai mis des rabats, parce que je me suis aperçue aussi que les rabats, du coup, ça fait quelque chose un peu objet. Et les gosses le voient vraiment, quoi. La première chose qu'ils font, et donc là, dans le rabat, sur la couverture, on a une scène de guerre, quoi. Les Allemands dans le village de dans un des hameaux de Saint-Agnan. Celui où il y avait l'école et celui où l'institutrice a été tuée. Mais derrière, dès qu'on ouvre le rabat, le village devient une cabane dans les arbres et on voit les gosses en train de ça peut être des gosses qui jouent, quoi. Donc c'est un dessin, c'est la forêt, c'est l'imaginaire. Donc on a mélangé l'enquête sur ce qui s'était passé à Vassieux pendant la guerre, mais raconté par des enfants, avec l'imaginaire. Et eux-mêmes, je sais pas combien il y a de chapitres, mais il y a un des chapitres qui est inventé. C'est-à-dire que tout le long, c'est l'histoire vraie de cette école et de ce qui s'est passé à Vassieux, comme l'ont raconté les témoins, parce que les 3 enfants dont c'est l'histoire sont 3 enfants qui étaient effectivement dans cette école en 44, comme enfants, Et qui étaient, en 2010, quand le livre a été fait, qui étaient les grands-tantes ou grands-parents d'enfants de l'école de Saint-Aignan, quoi. Donc, ils sont venus, ils ont raconté l'histoire aux mômes qui ont ensuite écrit l'histoire. Donc, les mômes ont suivi, finalement, ce qu'on leur a raconté. Ils ont réécrit ce qu'on leur a raconté. Mais quand même, ils ont rajouté un chapitre, un peu d'aventure pour aller défendre leur astite et tout ça, quoi.
C'est vrai que c'est une très belle couverture, un très bel ouvrage. Résistant à 10 ans, ça s'adresse aux enfants à partir de quel âge?
Ben, de 10 ans.
De 10 ans?
Oui, oui. non, mais le livre, c'est le best-seller du Vercors. Le tirage a dépassé les 3000, là. On doit être pas loin de 4000. Donc, on a vendu plus de 3000.
Et ça, c'est un exemple de auto-édition.
Alors ça, voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai fait mon travail d'éditeur avec les enfants, mais c'était les enfants sont allés à l'imprimerie les a accueillis, ils ont vu leur livre imprimé, enfin c'est eux qui ont fixé le prix, tout s'est fait avec eux. Donc ça, c'est et puis après, moi je distribue le livre, donc voilà. Donc là, c'est l'argent revient. Donc finalement, moi je suis le compteur d'édition a été un petit peu payé à travers la distribution. Parce qu'au début, il n'y avait pas d'argent, personne n'avait d'argent, donc on a fait les choses comme ça. Et puis, on l'imprime en numérique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un mode d'impression où on peut imprimer à quelques centaines. Donc on imprime 600 exemplaires à chaque fois. Et quand ils sont vendus, on refait tirer 600 exemplaires. Donc ça permet, et l'argent qui rentre va alors un petit peu au comptoir pour la distribution et à l'école. Donc c'est de l'argent qui sert à l'école pour acheter des caméras, du matériel, tout ça.
Tous ces ouvrages, on peut les trouver où? À la vente?
On les trouve dans les librairies du territoire, c'est-à-dire à Villard-de-Lans, autant que trouver. À Saint-Jean-Royan, chez Monsieur et Madame Locatelli au Tabac Presse, puisqu'ils ont un rayon librairie réel, quoi, qui existe. Et puis à Dille, la librairie Mosaïque. À Saint-Marcellin, la librairie du lycée. Après Romans, Valence, etc., quoi. Grenoble.
En tout cas, Catherine, vous nous faites bien partager votre passion du livre, votre passion de la littérature et votre passion du livre-objet aussi, hein.
Nous en reparlerons.
Merci beaucoup Catherine pour cet entretien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Un message peut-être à faire passer avant de se quitter?
Oui, peut-être un peu complété sur qu'est-ce que c'est que l'idée d'une maison d'édition rurale. Donc c'est l'idée de travailler avec les gens du territoire, quoi, les acteurs du territoire, de faire des livres ensemble. Mais c'est aussi l'idée que le livre, enfin moi la conception du livre que j'ai, c'est que c'est une manière de cristalliser l'énergie à un moment et ensuite de la rendre autrement. C'est-à-dire que, donc j'appelle ça des book machines, book le mot livre en anglais, et des machines quoi, des livres machines, parce qu'ils produisent de l'énergie aussi. Par exemple, le Super Parc Supernaturel, à un moment donné, va venir cristalliser toutes ces rencontres qui ont eu lieu entre un écrivain et des agriculteurs. Résistant à 10 ans, raconte l'histoire de la guerre ici, mais vue par des enfants, c'est-à-dire qu'en même temps, ça régénère, quoi. Je veux dire, c'est plus le Vercors noir, c'est un Vercors vu par, alors, c'est un problème. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont morts, quoi. Il reste presque plus personne, y compris de cette guerre-là. Et c'est des enfants, en fait. C'est la mémoire des enfants. Je veux dire que les gens qui ont raconté, qui aujourd'hui, je pense, sont plus très en vie non plus, Gaston, etc., c'est des gens qui étaient enfants pendant la guerre. Donc aujourd'hui, les gens qui racontent ces guerres, c'est des gens qui étaient enfants. Et donc, c'est très bien que ça soit repris par des enfants, quoi. C'est-à-dire que mais du coup, repris par des enfants, ça devient une histoire vivante, quoi. Les enfants, ils ont pas le sens de la mort. Et ça devient un livre d'aventure, ça devient, ouais, je trouve que c'est bien, quoi.
C'est bourré d'énergie, du coup.
Et du coup, c'est bourré d'énergie. Ou Vercors des mille chemins, le livre fait avec Philippe Anus et le CPIE du Vercors. Il y avait 30 auteurs. Ça parle des étrangers pendant la guerre, mais aussi avant la guerre et après la guerre dans le Vercors. Donc, il y a toutes sortes de gens. C'est absolument passionnant. Et ensuite, on a fait une tournée rock avec ce livre, c'est-à-dire qu'on a fait une quinzaine de présentations du livre partout sur le Vercors et tout autour, à Valence, Grenoble, etc. Et on faisait un casting des auteurs, on en choisissait 3 ou 4 à chaque fois, et on présentait le livre, il y avait des fois une pièce de théâtre avec, des fois une exposition avec, etc. Donc les livres sont ensuite un moyen de que quelque chose d'autre ait lieu. C'est-à-dire que à un moment donné, le livre concentre l'énergie de beaucoup de gens qui vont se mettre à faire un livre, toute une équipe va faire un livre. Et ensuite, c'est comme si on avait un entonnoir, quoi, ou un sablier peut-être plutôt. C'est-à-dire que d'un côté, l'entonnoir se referme, il arrive au livre, hein, et puis ensuite il se réouvre et il redonne de l'énergie, quoi.
Je pense que nous pouvons clore cet entretien sur cette belle métaphore du sablier. Merci beaucoup, Catherine. À bientôt. Au revoir.
À bientôt.